Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
De nouveaux cas suspects de variant Omicron en France et des conditions d'accès plus sévères aux frontières. En revanche, pas question d'instaurer la vaccination obligatoire. Les détails dans un instant.
Le bras de fer franco-anglais sur les licences de pêche, Guernesey en accorde 43 pour 58 demandes. Les Républicains se cherchent un représentant pour la présidentielle. Le vote des militants a commencé ce matin. Et puis la judoka Margot Pinault publie une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux. Elle affirme avoir subi les coups de son compagnon judoka lui aussi, mais il a été relaxé.
La tendance météo avec vous Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Eh bien, après le redout de ce mercredi, les températures repartent à la baisse. Demain, et côté ciel, des giboulées à l'est du pays et le retour de la neige à basse altitude sur nos massifs. Rendez-vous à la fin du journal pour un point complet.
Europe 1.
Le variant Omicron semble bien gagner du terrain, 13 cas suspects en France pour l'instant.
Oui, annonce de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement appelle à n'être ni dupe ni naïf sur d'autres cas qui seront annoncés dans les heures ou les jours qui viennent. En tout cas, face à la menace, la France resserre la vis, Jacques Serret.
Oui, les conditions d'accès pour rentrer sur le territoire français sont durcies. Tout voyageur en provenance d'un pays hors de l'Union européenne devra présenter à l'embarquement un test négatif de moins de 48 heures et ce que cette personne soit vaccinée ou non. Serrage de vis également pour les voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne. Là, pour les non vaccinés, la France imposera un test négatif de moins de 24 heures. Jusqu'à présent, c'était 72 heures. Durcissement d'un côté, mais léger relâchement de l'autre, puisqu'à compter de samedi, les vols qui étaient suspendus avec les pays de l'Afrique australe comme l'Afrique du Sud vont reprendre, sous certaines conditions tout de même, comme l'a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
Les ressortissants français, les résidents qui sont bloqués pourront regagner la France. Ils pourront le faire en produisant un test négatif à l'embarquement et ils pourront le faire en étant testés à l'arrivée et en respectant un isolement obligatoire pendant 7 à 10 jours selon le résultat de leur test. Mais vous voyez bien qu'on ne prend aucun risque.
Et une amende de 1 000 à 1 500 euros est prévue pour les voyageurs en provenance de ces pays d'Afrique australe qui ne respecteraient pas leur isolement.
Jacques Serret.
Et puis l'idée d'instaurer la vaccination obligatoire fait son chemin.
Oui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, suggère des discussions sur cette question.
Je pense qu'il est compréhensible et approprié d'avoir cette discussion maintenant. Comment pouvons-nous encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne ? Cela doit être discuté. Cela nécessite une approche commune, mais c'est une discussion qui, je pense, doit être menée.
Voilà, décision qui relève de chaque État membre de l'Union. Côté français, que pense-t-on de cette idée ? Écoutez la réponse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. On sait faire une obligation vaccinale chez les tout-petits, chez les nourrissons, puisque vous ne pouvez pas rentrer dans un établissement collectif type crèche ou école si vous n'êtes pas vacciné contre certaines maladies de vaccination obligatoire. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, et je comprends parfaitement que certains pays puissent se poser la question. En France, nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant, et je le dis, nous avons encore notre destin entre nos mains, et cet effet coupe-feu d'une campagne de rappel vaccinal massive, ça a fonctionné dans d'autres pays, ça fonctionnera chez nous.
Olivier Véran, ministre de la Santé, qui par ailleurs reconnaît un effet embouteillage normal pour trouver un créneau de vaccination, mais il est convaincu que tout le monde aura sa troisième dose dans les 7 à 8 semaines. Et puis pour la petite histoire, la municipalité de Limoges distribue cette semaine à tous les écoliers des équerres, des rapporteurs et des règles plutôt originaux. Les 6000 kits sont fabriqués à partir de masques chirurgicaux. Ils ont été récupérés par la ville avec une association d'insertion.
La France gagne une première manche dans le conflit des licences de pêche qui nous oppose aux Anglais.
Guernesey décide en effet d'accorder 43 licences à des bateaux français qui pourront donc continuer à pêcher dans les eaux de l'île anglo-normande. 43 licences pour 58 demandes. La ministre de la Mer, Annick Girardin, parle d'excellentes nouvelles pour nos pêcheurs. Satisfaction également de Marc Delahaye, c'est le directeur du comité des pêches de Normandie.
Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça réouvre une perspective à tous ceux qui avaient des droits historiques prouvés dans ces eaux. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire travailler leur entreprise comme ils le faisaient par le passé, Guernesey, ils y sont allés d'une façon très technique, pas du tout politique. Par contre, j'émettrai un bémol. On attend plus d'informations sur les mesures techniques qui vont accompagner les accès qui ont été donnés par Guernesey. Savoir combien de jours, quelle quantité possible, quel type d'engin, quelle espèce, quelle saisonnalité. Il y a encore du travail à faire, c'est clair.
Des propos recueillis par Thibaut Hue pour Europe 1.
Eux vont à la pêche, mais aux voix, les 5 candidats à l'investiture LR pour la présidentielle attendent fébrilement le choix des militants.
Eh oui, Pécresse, Barnier, Bertrand Ciotti ou Juvin, le vote du premier tour a commencé ce matin. Réponse définitive, samedi après-midi, Alexandre Chauveau. On a déjà un premier chiffre, celui de la participation à 18h.
Oui, 52,8%, ça correspond à un petit peu moins de 74 000 votants pour l'instant. Un chiffre qui devrait encore augmenter d'ici demain 14h, heure de la fin du premier tour, et qui sera évidemment scruté, car même si le corps électoral est restreint aux adhérents, plus la participation sera importante, et plus le candidat arrivé en tête aura de légitimité. L'objectif pour les Républicains étant, on le rappelle, de lancer une dynamique à 5 mois de la présidentielle. Et puis ce sera également un moyen pour les 3 autres candidats non qualifiés de peser dans l'optique du second tour. Le scrutin étant particulièrement serré, les alliances entre candidats et les reports de voix pourraient jouer un rôle décisif. À ce stade, aucun candidat n'a réellement anticipé sa campagne de second tour, qui ne durera de toute façon que quelques heures, entre demain après-midi et demain soir minuit. Il n'y aura ainsi pas de débat entre les finalistes, conformément à la volonté du parti qui ne voulait pas laisser de place à la moindre division. Le second tour aura donc lieu dans la foulée entre vendredi 8h et samedi 14h. Et c'est samedi à 14h30 que l'on connaîtra le ou la grande vainqueur qui tiendra un grand meeting la semaine suivante, porte de Versailles à Paris.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le nouveau candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, qui a rassemblé, vous le savez, plus de 7 millions de spectateurs hier soir sur TF1, change de salle pour son meeting de dimanche. Fini le Zénith. Ce sera le parc des expositions de Villepinte, 19 000 personnes attendues selon son équipe. Et puis c'est aujourd'hui que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur. Pour être indemnisé, il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 sur les 2 dernières années. Et pour les plus hauts salaires, plus de 4 500 euros bruts mensuels, la dégressivité de 30% commencera non plus au 9e, mais au 7e mois.
Une petite pause et on parle ensuite de cette photo choquante publiée par la judoka Margot Pino, un visage déformé par les coups de son compagnon et ex-entraîneur. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans la suite du journal de 19h avec Hélène Zélani. Hélène, on parle beaucoup des violences faites aux femmes en ce moment. Aujourd'hui, c'est la judoka Margot Pino qui affirme avoir été victime d'une violente agression.
Oui, de la part de son compagnon et ex-entraîneur Alain Schmitt, lui aussi ancien médaillé aux Jeux Olympiques. Il a été relaxé, mais le parquet a finalement fait appel. Si on parle beaucoup de cette affaire ce soir, Jean-François Pérez, c'est à cause de la photo que Margot Pino publie sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est une photo qui a déjà indigné des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. On y voit le visage tuméfié de Margot Pino. Elle affirme avoir frôlé la mort sous les coups d'Alain Schmitt dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons joint la championne ce soir. Elle ne souhaite plus s'exprimer pour le moment, mais elle nous a confié qu'elle était encore sous le choc de ce déferlement de violence manifestement réciproque. Pour Europe 1, le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, accepte ce soir de revenir sur les faits. Il s'étonne que la justice ait, dans un premier temps, relaxé l'ancien judoka.
J'étais hyper choqué de la voir dans cet état-là le premier jour. C'était c'était vraiment dur. Moi, je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Il y a une phrase moi qui m'a choqué, c'est absence de preuves, 10 jours de ITT, le nez, les marques au visage, et tuméfié partout, des bosses, et voilà, c'est plus que de communiquer. Depuis 3 jours, on fait avec elle et on est proche d'elle et on est à son soutien, quoi.
Voilà, le parquet de Bobigny ayant fait appel de cette relaxe pour absence de preuves. Le dossier reste ouvert. En attendant, le monde du judo monte au soutien de la double championne d'Europe et championne olympique par équipe. Clarisse Agbenienou s'interroge. Que faut-il pour que des sanctions tombent? La mort, point d'interrogation. Et Teddy Riner se dit profondément touché. Il dénonce des violences intolérables et inacceptables.
Jean-François Pérez, merci. Première réaction d'Emmanuel Macron à l'affaire Nicolas Hulot, son ex-ministre accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Selon nos informations, le chef de l'État a estimé en Conseil des ministres « Nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance et nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition ». Fin de citation.
C'est ce que l'on appelle un cold case du nom d'une célèbre série télé, une affaire judiciaire ancienne qui restait un mystère, le meurtre d'une jeune fille de 17 ans en 1994 dans l'Aisne.
Oui, Nadège Desnois avait été retrouvée morte à Château-Thierry, le tueur courait toujours, sauf que 27 ans après, un homme de 55 ans est en garde à vue. C'est l'ADN qui a parlé, Yasmine Akatou.
Oui, son ADN a été récemment enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques dans le cadre d'une affaire de violence conjugale. Et ses empreintes correspondent à celles retrouvées sur la scène de crime il y a près de 30 ans. En mai 1994, dans l'Aisne, Nadège Desnois, 17 ans, est retrouvée morte, étranglée et lardée de coups de couteau. Son corps avait été abandonné sur le bord d'un chemin à proximité de son lycée. Dans un premier temps, la piste de Michel Fourniret, le tueur en série, a été explorée par les enquêteurs. Finalement, son ADN l'a trahi. Le quinquagénaire était donc entendu par les enquêteurs depuis son arrestation hier. Il est connu par les services de police pour des faits d'enlèvement d'enfants. L'homme doit maintenant s'expliquer sur la présence de son ADN sur la scène de crime.
Yasmina Katou.
Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. 200 000 personnes en France vivent avec cette maladie.
Oui, mais elles affrontent souvent des préjugés, voire des discriminations, souvent par méconnaissance. C'est le cas de Flavie, 57 ans, dont 35 de séropositivité.
Il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé de travailler avec des enfants pour des ateliers. Mais on me demandait de travailler éloigné des enfants, de ne pas m'en approcher. Et ils n'ont pas compris que je n'accepte pas cet emploi. Les gens sont gentils avec moi, mais relativement rassurés que je sois un peu en dehors du système. Et c'est ça que je ne veux pas qu'il arrive aux plus jeunes. Je voudrais qu'ils puissent vivre normalement et qu'on ne les oblige pas à se mettre en marge de la société. Ce qu'on m'a un peu poussé à faire à une époque de ma vie. Il n'y a pas de raison qu'on leur demande de se mettre en marge de la société. Elles peuvent vivre tout à fait normalement. Elles ont des traitements tout à fait corrects qui vraiment sont aujourd'hui incroyables. Et donc, elles doivent avoir des vies normales.
Flavie, au micro européen d'Afsané Saboui. Elle est d'ailleurs l'un des 5 visages de la nouvelle campagne de l'association Aide.
Le football avec un match attendu ce soir au Parc des Princes, PSG Nice.
Oui, attendu parce que le premier du classement reçoit le troisième, mais aussi et surtout parce que ce sera l'occasion pour les heureux spectateurs de découvrir en vrai le ballon d'or de Lionel Messi. Cédric Chasseur, vous êtes en ce moment devant le Parc des Princes.
Oui, c'est un peu le jour d'après pour le PSG qui va mettre en avant Messi et Donnarumma, le meilleur joueur et le meilleur gardien du monde selon le classement révélé lundi. Paris Golden City, ville dorée, est ainsi affichée sur la devanture du Parc des Princes où le ballon d'or et le trophée Yachine seront présentés au public avant PSG Nice. Après, place au jeu, Messi pourrait tenir sa place malgré des symptômes de gastro-entérite hier. Pas Neymar, victime d'une grosse entorse de la cheville et absent près de 2 mois. Ni Ramos, préservé par Mauricio Pochettino. En face, Nice, 3e à 14 points déjà du PSG, doit se reprendre après sa défaite face à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Nul doute qu'un bon résultat au Parc des Princes où les Aiglons n'ont plus gagné depuis novembre 2009, soit 10 matchs, permettra de remettre les choses en ordre. Vous le voyez, Hélène, tout est prêt ce soir pour vivre un choc entre le Paris Saint-Germain et Nice, coup d'envoi 21h.
Merci Cédric Chasseur devant le Parc des Princes pour Europa.
La météo avec Marlène Duret. Marlène, un temps à gibouler et de la neige en montagne.
Oui, c'est un ciel de traîne plus ou moins actif qui se généralise demain, accompagné d'une arrivée d'air froid. Un temps à gibouler, oui, le long de la frontière belge, dans les régions du Grand Est, sur une grande partie de la Bourgogne, en Alsace, en Franche-Comté, mais aussi en Auvergne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées. Donc le temps sera nuageux à couvert et pourra donner des averses avec des limites plus neige qui seront plus basses que celles d'aujourd'hui. Elles vont s'abaisser à 300 mètres dans les Vosges, 400 mètres dans le Jura et le Massif central, 500 mètres dans les Alpes, et puis il neigera même jusqu'en plaine, près des frontières du Nord et du Nord-Est. Mais a priori, la neige ne tiendra pas au sol. Des nuages vont venir se bloqué aussi sur la chaîne des Pyrénées avec de la neige à partir de 800-900 mètres. Du côté de la Méditerranée, en revanche, grâce au vent, on va retrouver du beau temps sur tout le pourtour et dans les Alpes du Sud. Pas du côté de la Corse, en revanche, puisque le vent sera orienté différemment. Et puis, pour toutes les autres régions, donc en allant vers l'ouest du territoire, des éclaircies et un ciel qui va se charger à nouveau en Bretagne, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation. Du côté des températures, hormis dans le sud-est, ça baisse. Partout, le matin comme l'après-midi. Et l'après-midi, justement, elles seront de l'ordre de 3 à 6 degrés sur un bon quart nord-est. Comptez en général 5 à 8 degrés au nord-ouest, un petit peu plus dans le Finistère. On va monter jusqu'à 10. Sur la moitié sud, il fera généralement 6 à 11 degrés. Et toujours plus près de la Grande Bleue avec 11 à 15 degrés.
Merci Marlène Duret pour ces températures. Hélène Zélani, à demain 19h pour le journal. Bonne soirée à vous. Nous, dans un instant, on se retrouve pour les débats de Punchline. On parlera de la campagne d'Éric Zemmour, de l'interdiction de l'obligation vaccinale par Olivier Véran et de Gérald Darmanin. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.